18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 15 octobre et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.1 FM. Vous avez toujours rêvé d'une université qui ne soit pas simplement brestoise ou même française, mais européenne? D'une université qui faciliterait les échanges entre pays et campus? Restez avec nous, on parlera en deuxième partie d'émission du projet CEU, future université européenne. Qu'est-il arrivé à Emma, 32 ans, retrouvée morte chez elle, à Brest? C'est la question qui fait office de fil rouge dans ce nouvel escape game nommé 146, en référence aux 146 féminicides de l'année passée, qui a pour sujet les violences conjugales. Pour en parler avec nous, Simona Antin, sa créatrice, ingénieure pédagogique au CESIM de Brest. Le CESIM qui est donc le centre de simulation pour l'apprentissage et l'enseignement des sciences de la santé. Simona, bonjour.
Bonsoir.
Pourquoi faire cet escape game?
Alors, c'était un projet qui me tenait à cœur parce que je voulais travailler sur un projet donc innovant. Dans le cadre de mon travail, je suis la coordinatrice d'un projet qui s'appelle iDéfi, Initiative d'excellence en formation innovante, donc dont je suis la coordinatrice. Et donc, dans cette mouvance de l'innovation, j'ai voulu proposer ce jeu et le thème des violences, parce que c'est un thème qui m'intéresse d'actualité et que je voulais mettre en valeur, apporter un peu au devant de la scène.
Et du coup, comment vous avez venu cette idée?
En cherchant, en fouillant. Et comme je disais, c'est parce que le thème des violences me préoccupe, m'intéresse en ce moment. Donc voilà, j'ai un peu apporté dans mon travail mes préoccupations, mes intérêts par ailleurs.
Et justement, est-ce que vous trouvez que c'est une thématique qui n'est pas forcément assez abordée dans la formation du personnel soignant, etc.?
Oui, pour faire ce projet, j'ai quand même fait un état des lieux, en fait, une bonne recherche. Et donc, en effet, le thème de violence est abordé en formation un peu, mais vraiment, ça reste très marginal. Et ça, c'est à tous les niveaux, en fait. Et c'est d'où l'idée. Il y a plein de jeux, de lois, enfin, des jeux sur l'égalité, sur les stéréotypes, sur le harcèlement, même pour les enfants et tout. Mais les violences conjugales, c'est peu abordé. Et d'autant plus sous cette forme-là d'un escape game. Donc c'est assez original comme idée, c'est un projet assez innovant.
Et justement, comment est venue l'idée d'un escape game? Parce que c'est quand même un jeu un peu particulier.
Oui, c'est un jeu particulier que j'avais vécu ici sur Brest, un jeu commercial que j'avais adoré. Et donc je me suis dit, pourquoi? C'était un peu osé, en fait, du moment où j'ai eu l'idée jusqu'à la réalisation. J'ai eu quelques mois de flou comme ça où je me disais, je savais pas trop comment j'allais faire, mais voilà, en travaillant beaucoup.
Et donc justement, comment vous avez réalisé, parce que voilà, de l'idée,
oui,
jusqu'à la...
Voilà, c'est ça.
Bah, maintenant il est disponible, comment on fait?
Alors, comment on fait? Donc déjà, j'ai passé beaucoup de temps à étudier le thème, parce que même si ça m'intéresse et je suis, comme je disais, assez engagée, je ne suis pas une spécialiste du thème. Alors, j'ai beaucoup lu tout ce qui est référence en matière, c'est-à-dire des documents proposés par la Haute Autorité de Santé, par le site Arrêtons les violences, qui est un site gouvernemental, ou le Haut Conseil de l'égalité, donc qui propose vraiment des statistiques, des lettres d'information, beaucoup de documents également pédagogiques. Et donc, en partant de ces documents-là, j'ai établi mes objectifs pédagogiques que j'ai transformés par la suite un message clé que je voulais absolument faire entrer dans le jeu. Et ensuite, de ces messages clés, j'ai créé les énigmes et les indices.
Du coup, vous parlez de messages clés. Quel est le but précis de cette escape game?
Alors, c'est simple, sensibiliser, informer, aider à dépister et, autrement dit... prévention plutôt, dépistage et prévention. Donc on est vraiment en début de la formation sur le thème des violences faites aux femmes. J'aborde peu les questions légales, juridiques. Voilà.
Et est-ce qu'il y a d'autres formations en lien pour compléter un peu cet escape game?
Oui, c'est ce que je suis en train de construire, en fait. Donc, pour insérer ce jeu dans un scénario pédagogique un peu plus complexe, on a prévu, donc, pour l'instant, une journée de formation. Un début de journée, donc, le jeu avec un questionnaire de capitalisation, parce que les gens jouent, en fait, mais ils savent pas, en fait, qu'ils apprennent en même temps. Donc, la capitalisation est nécessaire pour fixer les informations et un débriefing. Et la première partie de la journée et la deuxième partie, j'ai l'intention de faire venir des spécialistes, voilà, qui apportent des informations, un cadre théorique plus important que ce que moi j'apporte avec le jeu.
Et donc à qui il est ouvert cet escape game?
Alors, aujourd'hui, y a plein de personnes déjà qui ont testé, qui sont curieuses de découvrir, que ce soit les étudiants ou mes collègues à la faculté de médecine. Donc, la semaine dernière, on a testé avec des kinés et des sages-femmes qui sont professionnels, donc, et qui travaillent à l'hôpital, mais aussi à la fac, donc formateurs en même temps. Ils ont trouvé ça intéressant. Mais après, je l'ai testé également avec des, dans le cadre du DU que nous avons au CESIM autour des formations innovantes. Donc, c'était plutôt la pédagogie. Et sinon, à partir d'aujourd'hui, de ce mois, il est ouvert à tous les professionnels de santé. Donc, que ce soit médecin, kiné, ostéopathe, aide-soignant, enfin, vraiment tout le monde. Mais pas seulement. On peut le proposer également à d'autres métiers, parce que finalement, à tout public qui est en contact, qui pourrait prendre en charge des femmes victimes de violences. Et là, on parle de policiers, de gendarmes, d'avocats, enfin, mais même pour des salariés, en fait, on peut voir autour de nous des femmes qui se retrouvent en difficulté. Il faut qu'on sache agir.
Et justement, est-ce qu'à terme, vous comptez développer cet escape game, en tout cas le principe, ailleurs, donc que ce soit en termes de lieu, donc pas que au CESIM à Brest, mais aussi ailleurs, ou alors en termes de personnes, justement, est-ce que bientôt des scolaires pourront y assister ou autres?
Ah oui, il est très accessible. Ils peuvent, je pense que oui, des collégiens, ils peuvent très bien jouer. Le côté jeu est très, très marqué. Donc, on rentre dans la pièce, on ne fait que jouer, on prend du plaisir, parce que c'est une quête. Hein. Il y a la fouille, il y a l'assemblage, le décryptage, vraiment toutes les mécaniques de l'escape game. Et en même temps, il y a ce côté capitalisation. Donc oui, ça se prête à beaucoup de publics. Ça, c'est l'âge.
Et justement, c'était important pour vous d'avoir une forme d'apprentissage par le jeu, par la recherche?
Oui, parce qu'on sait que le thème des violences conjugales, des violences faites aux femmes plus large, est assez difficile d'accès. Voilà, on a des personnes qui trouvent qu'elles ne sont pas concernées, des personnes qui trouvent que c'est trop difficile de le travailler. Donc, le jeu permet déjà un abord un peu plus voilà, ludique, mais peut-être une mise en disposition des personnes, une ouverture pour aborder le jeu. Et après, parce que le jeu, d'accord, il y a le côté ludique, mais il y a cette mise en situation qui fixe les informations après. Les gens se rappellent très très bien de ce qu'ils ont vu dans le jeu.
Et justement, est-ce que vous avez des critiques pour l'instant sur le fait que ce soit peut-être un petit peu trop ludique et que ce soit un peu déplacé d'en rigoler presque, enfin pas d'en rigoler, mais de faire un jeu autour de ça, de ce sujet?
Oui, j'ai eu cette remarque assez vite quand j'ai commencé mon projet. Ah oui, c'est un peu glauque d'appeler ton nom, ton jeu 146, le nombre de féminicides. Mais par contre, donc, pour faire ce jeu, moi, j'ai quand même fait un peu de recherche scientifique. Donc, je suis aussi chercheuse à la base. Et donc, je me suis inspirée de beaucoup de personnes qui travaillent justement sur ce qu'on appelle le jeu expressif, le fait de mettre une personne dans une situation un peu sensible, mais avec l'idée de lui provoquer un vécu particulier, un vécu sensible, qui permettrait quelque part, à la fin, de l'amener à changer de comportement, de prendre une prise de conscience, mais aussi de lui amener une pratique un peu réflexive, un peu engagée sur la société. Donc voilà, c'était ça mon objectif. Et d'ailleurs, les violences, d'accord, c'est peut-être un thème difficile, mais ça nous concerne, ça fait bien partie du réel, ça fait partie bien partie de notre réalité, de notre société. Donc voilà, c'est comme n'importe quel thème en fait. On peut jouer sur tout, donc pourquoi pas sur ce thème.
Et est-ce que vous pourriez nous décrire une séance type ?
Alors, oui. Donc, normalement, le jeu dure une heure avant que les personnes entrent dans la pièce, parce que ça se passe dans une pièce, comme un escape game classique, commercial. Donc, il y a un petit briefing, voilà, consigne de sécurité, un peu pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire dans la salle. Ensuite, ils entrent donc dans la pièce. C'est une pièce au sésime. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qui m'a inspirée dans mon escape game. Le fait d'avoir un environnement technique très, très intéressant. On a des caméras partout, des micros, donc c'était facile de reproduire cette salle. Donc, les gens entrent dans la pièce, ils jouent une heure, ils trouvent donc, ils cherchent les indices. Après, on les arrête. Donc, c'est vraiment, le temps est un élément très important. Donc, une heure, pas une minute de plus. Je leur demande de rédiger un rapport d'enquête parce qu'ils sont les enquêteurs du jour. Donc, il faut bien qu'ils cherchent à comprendre ce qui s'est passé avec Emma. Donc, ça dure une quinzaine de minutes, pas plus. Et après, il y a toute la partie débriefing, c'est-à-dire capitalisation, questions, voir pourquoi ces indices, pourquoi ces énigmes et quel est le rapport finalement avec le thème des violences. Et là, ils sont ravis, ils disent « Ah oui, d'accord, j'ai pas vu ça, j'ai pas compris ça, mais c'est génial, voilà. » Ils aiment bien.
Et du coup, pourquoi ce créneau d'une heure seulement ? Parce que ça peut paraître très court pour trouver des indices.
Oui, c'est le format classique des escape games, déjà. Et après, c'est suffisant, en fait. C'est suffisant pour... en effet, ça passe très vite. C'est suffisant pour aborder le thème, parce que le jeu en soi est aussi important que le débriefing qui suit. Donc, il faut que ce soit un peu équilibré.
Et justement, est-ce que avant de venir, ils ont, enfin les sages-femmes ou le personnel soignant en tout cas qui teste cet escape game, est-ce qu'ils connaissent le sujet ou est-ce que c'est vraiment une découverte pour eux au moment où ils arrivent dans l'escape game ?
Ah non, quand ils arrivent, oui, peut-être ils connaissent le thème en général, mais ils savent pas du tout à quoi s'attendre. Ils sont complètement perdus dans la pièce au départ.
Et donc du coup, justement, est-ce que vous avez des retours des soignants qui l'ont testé ?
Oui, donc les derniers, c'est ceux de la semaine dernière. Oui, donc comme je disais, ils ont la double casquette, formateur et professionnel de santé. Et ils ont trouvé ça très intéressant. Oui, là, on est en train de voir quel partenariat, quelle possibilité trouver pour l'utiliser avec les étudiants et même en formation continue. Oui, ils ont bien aimé.
Et est-ce qu'ils ont eu des propositions d'amélioration ou d'autres indices
On peut, mais vous savez, un jeu, je l'ai testé déjà beaucoup, beaucoup de fois et il y a toujours quelque chose à ajuster. Donc, c'est pour ça que tout retour est intéressant. Mais déjà, ça marche assez bien.
Et est-ce que vous n'aviez pas peur, en créant cet escape game, que les indices soient un peu trop apparents et que dans la réalité, les signes soient moins évidents que ça ?
Non, je pense que j'ai bien choisi. mais justement, en fait, le jeu porte beaucoup sur le dépistage et la compréhension d'un environnement violent. Donc, on entre dans une pièce normale et là, il faut comprendre pourquoi un papier froissé à la poubelle et quand on le lit, qu'est-ce que ça signifie, ou un message sur un répondeur, pourquoi ça. Voilà, il y a beaucoup d'indices qu'il faut comprendre, qu'il faut mettre ensemble et qui, oui, au début, ils ne sont pas évidents, mais c'est comme dans la vraie vie. Hein. Ce n'est pas évident de dépister les violences. C'est très, très dur même. D'où ce besoin de formation.
Et justement, est-ce que vous voyez déjà les résultats ? C'est-à-dire, est-ce que des personnes qui ont testé du coup, le jeu ont déjà été depuis confrontées à des violences conjugales parmi leurs patients ?
Bah déjà, les sages-femmes et les kinés, ils sont confrontés professionnellement tous les jours. Les sages-femmes travaillent déjà beaucoup sur ce sujet en violence, en service gynécologique. Elles sont confrontées à cette problématique. Et d'ailleurs, elles sont très sensibilisées à ça parce qu'elles l'ont déjà vécu. Donc, d'où leur intérêt pour le jeu, pour cet escape game.
Mais justement, est-ce que vous voyez déjà un avant-après ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le voir ?
Non, là, c'est... en ce qui me concerne, le retour par rapport au jeu, c'est trop tôt parce que, voilà, on n'a pas encore monté la formation. C'est vraiment le début. Mais je suis sûre que c'est utile. Ça va être utile.
Et tout à l'heure, vous parliez d'indices qui avaient du coup partout dans la pièce. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée d'un indice? Parce que c'est vrai que, vu qu'on n'est pas là actuellement dans la pièce, c'est difficile, en plus, pour ceux qui nous écoutent aussi, pardon, d'avoir une idée. Est-ce que vous pourriez nous donner un indice, quelque chose pour se rendre compte?
Oui, il faut que je donne quelque chose sans que je dévoile de trop. Voilà, je vais vous dire qu'il y a de la manipulation. Il y a une boîte qu'il faut ouvrir, vous voyez, un peu comme les casse-tête chinoise, voilà, un peu compliqué. Donc, il faut manipuler quelque chose. On entend bien qu'il y a quelque chose dedans, mais voilà, il y a un message qu'il faut trouver dans la boîte. Voilà, c'est un exemple. Mais après, un puzzle, par exemple. Il y a des cadenas, il y a des codes du numérique, du physique, du décryptage.
Et enfin, dernière question. Est-ce que vous avez d'autres projets de ce type qui sont en construction?
Ben, c'était ce projet le premier, mais franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Maintenant, moi, j'ai clairement la méthode. Déjà, moi, ce que je propose, c'est d'accompagner d'autres personnes aussi à la fac de médecine, même ailleurs, s'ils le souhaitent s'y mettre, parce que je vois déjà les résultats, ça plaît beaucoup. Et je pense que c'est un intérêt pédagogique évident. Donc, oui, pourquoi pas. On y prend goût vite. Hein.
Merci beaucoup, Simona Antin.
Avec plaisir.
Qui était donc là, je le rappelle, pour nous parler de son initiative citoyenne, donc un escape game pour informer et préparer les soignants face aux violences conjugales. On rappelle d'ailleurs que si vous êtes vous-même concerné, vous pouvez appeler le 3919. Et pour continuer, on écoute Kono Houlé de Toucan Toucan.
Tomorrow, my name is Toro. I sure heard a load about you. And the shadow is, we need a hero, 'cause we already hear the
sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites, et c'était Kono Oulé de Toucan Toucan. Et maintenant, on va parler d'Erasmus, et plus précisément, du projet d'université européenne CU. Pour en parler avec nous, Delphine Muth, bonjour.
Bonjour.
Delphine, qui est coordinatrice CU à l'UBO. Tout d'abord, à quoi correspond l'acronyme CU ?
Alors, CU, en fait, c'est l'idée de lier 6 universités européennes, donc qui sont toutes en situation périphérique le long de la côte du littoral européen. Et donc, le CI vient naturellement de cette proximité à la mer. L'idée est effectivement de lier 6 universités qui sont liées à la mer, mais pour le patrimoine historique, culturel, le fait d'aller se balader sur la plage le week-end et pas forcément juste le fait d'étudier la mer. C'est vraiment l'idée que l'université est connectée avec son territoire marin. Et le U vient pour Europe, parce que voilà, c'est cette notion d'identité européenne qui est à travers ce projet. Donc l'idée, c'est d'avoir la mer comme lien commun entre ces 6 universités et d'aller vers une intégration européenne.
Et du coup, quel est le projet concrètement ?
Donc le projet plus dans le détail, c'est l'idée qu'Erasmus, donc je sais que vous en avez déjà parlé hier, mais c'est sur la mobilité étudiante et le fait qu'effectivement depuis 30 ans, c'est des financements européens qui permettent aux étudiants de bouger à travers l'Europe. Après 30 ans, c'est toujours cité comme l'un des principaux résultats positifs de l'Europe, une des plus grandes réussites, mais quand bien même, ça n'atteint pas l'objectif escompté du départ. Donc là, l'idée, c'était un peu de penser Erasmus 2.0, la nouvelle génération, et de faire quelque chose de plus intégratif, qui allait toucher toute la communauté dans son ensemble, et de faire en sorte que l'Europe, au-delà des étudiants qui bougent à travers l'Europe, que l'Europe allait venir à l'UBO, que chaque étudiant qui commence une année universitaire à l'UBO se sente étudiant européen. Donc on en est à la première année du projet. C'est un projet qui a une ambition sur 10 ans, donc on n'est pas tout de suite déjà à l'UBO dans un campus européen, mais l'idée et l'ambition, elle est bien là. C'est de se dire, d'ici 10 ans, n'importe quel étudiant qui rentrera à l'UBO se sentira étudiant européen parce qu'il y aura plus de profs invités, il y aura des mobilités courtes qui vont être mises en place et différents types de mobilités, des cours virtuels. Vous avez malheureusement tous expérimenté ça cette année. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, ces cours virtuels, ils pourront prendre une dimension européenne d'autant plus facilement grâce au virtuel. Et donc, c'est vraiment ça l'idée de construire un campus européen.
Et donc, du coup, l'idée, c'est de lier 6 universités. Est-ce que tu peux me dire lesquelles ?
Alors, les 6 universités, donc à part l'UBO, évidemment, c'est l'université de Gdansk en Pologne, l'université de Kiel en Allemagne, l'université de Kiel de Cadix en Espagne, l'université de Split en Croatie et de Malte à Malte. Il faut savoir que l'université de Cadix et l'université de Kiel sont les deux universités avec lesquelles l'UBO a depuis longtemps un fort partenariat sur les mobilités étudiantes. C'est là qu'on envoie le plus d'étudiants européens. C'est Cadix qui nous a contactés en premier. Quand l'appel à projet a été lancé, ils sont venus chercher l'UBO parce que justement, il y avait cette idée que c'était deux universités relativement similaires en termes de taille d'étudiants. C'est des universités pluridisciplinaires et donc c'était très très important de se dire, effectivement, on a des universités qui se ressemblent. Donc la proximité avec la mer, le fait qu'elles soient pluridisciplinaires et que donc on avait une communauté d'étudiantes qui allait pouvoir se reconnaître, peu importe la discipline dans laquelle les étudiants faisaient leurs études.
Et donc, du coup, vous disiez que vous étiez déjà en contact avec l'UBO, avec l'université de Cadix, et c'est en Allemagne, j'ai oublié le nom de
Kiel.
La ville. Kiel, voilà. Et du coup, comment les autres ont été choisis ?
Alors, l'une des ambitions aussi de ce projet, c'est de limiter la crise d'identité européenne. Et donc, l'appel est sorti en fin 2018. Et donc, c'était l'idée de relier l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et il y avait pour obligation, dans l'appel à projet, de couvrir l'ensemble des régions européennes. Donc une fois que nous, on avait couvert l'axe ouest de l'Europe, on a été contacter les collègues en Pologne assez rapidement, pareil, parce que c'était une université côtière, pluridisciplinaire, avec un nombre d'étudiants relativement similaire. Les collègues de Split, c'est parce qu'on avait quelques accords sur la partie médecine. On avait eu des échanges avec des collègues qui étaient venus nous parler de ce qui se faisait à l'université de médecine à Split, donc ça avait été un bon contact. Et pareil, l'université de Malte, c'était la position en Méditerranée. Il y a la problématique des migrants et ça paraissait être un sujet important en termes de construction européenne. Ça nous paraissait un partenaire intéressant. Ils ont répondu positivement assez rapidement, donc c'était motivant.
Et donc, du coup, vous disiez tout à l'heure que toutes ces universités, elles sont près de la mer et qu'elles sont liées, mais pas forcément que pour ça. Pour autant, est-ce qu'il y a quand même une importance qui est donnée par rapport à la recherche ou tout ce qui est univers marin ? Et on pense par exemple à tout ce qui est pollution avec les je sais pas, voilà, tout ce qui est continent de déchets, etc. Est-ce que c'est un thème qui est au centre de ce futur campus européen ou pas?
Alors, il n'est pas au centre en tant que tel. C'est forcément un terrain sur lequel on va avoir des facilités à trouver des équipes qui vont avoir envie de travailler ensemble, parce qu'effectivement, vu que ces 6 universités possède des centres de recherche marine, ça va être assez facile de créer des connexions. Il y avait la SeaTech Week, c'est la SeaTech Week en ce moment à Brest, donc un événement de dissémination sur la recherche et le lien avec les entreprises. Et donc il y avait des sessions spécifiques sur CIU. Et effectivement, on voit bien qu'il y a un fil conducteur. Quoi. Voilà, c'est le fil conducteur de départ, donc c'est facile de trouver des points d'accroche. Mais pour autant, c'est pas le centre, quoi. Voilà, la partie recherche ou étude sur les sciences de la mer n'est pas au centre. Il y a vraiment l'idée de travailler sur toutes les disciplines qui sont enseignées à l'université. Pour autant, pour en revenir aux histoires de pollution, il y a dans ce projet-là aussi une forte ambition de travailler sur tout ce qui est développement durable. Et donc sur la dimension aussi pollution, respect de l'environnement, respect de la biodiversité. Donc, mais autant que sur la dimension respect de l'équité homme-femme, inclusion de tous les publics dans la mobilité Erasmus. Donc voilà, c'est le développement durable au sens très large, mais donc forcément il y a une dimension sur le respect de l'environnement.
Bon, du coup, le développement durable, on en parlera à la fin. Question toute simple, mais comment est venue l'idée de ce projet ?
Donc en fait, c'est un appel à projet qui suit un peu la politique. Donc 2018, il y avait quand même quelques crises avec une montée des populismes dans l'Europe de l'Est. Président Macron a fait un discours à la Sorbonne qui a eu un petit écho, parce qu'il a parlé justement du rôle des universités dans la construction européenne et de l'excellence des universités, et qu'elles avaient un rôle à jouer pour renforcer l'identité européenne. C'est un discours qui a fait un peu écho et qui a été repris à Bruxelles. Et donc ils ont travaillé dessus. On arrive les financements européens sont alloués par des périodes de 7 ans. Donc là, on arrive en fin de programmation. Ils se sont dit, bah là, il y a vraiment quelque chose à faire sur cette idée-là pour construire justement la nouvelle génération d'Erasmus, et de se dire, au-delà des mobilités individuelles, qui sont vraiment une force pour chaque étudiant qui a la chance de partir en mobilité, là, c'était de se dire, bah, pour les étudiants qui n'ont pas cette chance de partir en mobilité, il faut effectivement qu'ils soient aussi inclus dans cette dimension d'Erasmus. Donc ça vient vraiment là, c'est un... L'idée, effectivement, c'est de faire en sorte que les universités et les étudiants jouent leur rôle dans la construction européenne et dans ce sentiment d'identité européenne.
Et du coup, comment on monte un projet aussi grand que celui-ci de A à Z ?
Alors, ça va vite. Et puis, en fait, le projet, il n'est pas construit dans sa globalité. Il se construit un peu au jour le jour. Donc, effectivement, on avait vent que cet appel à projet allait être publié. Officiellement, il est sorti en octobre 2018. Et nous, on avait des contacts avec l'Université de Cadix depuis le mois de mai. Donc, on était déjà sur la réflexion de projet, mais on construisait le consortium, on se mettait d'accord. Voilà. Et en fait, à partir du moment où l'appel à projet est sorti, on savait ce qu'il fallait rédiger. Il y a à peu près 200 pages à rédiger pour convaincre l'Europe que notre idée fait sens et que notre consortium a une identité commune. Et vraiment, le fait qu'il y ait le vecteur, le fil conducteur de ces universités marines, ça a aidé à convaincre. Il y a... Pour les universités qui ont l'habitude de travailler dans le champ, les universités pluridisciplinaires, il y avait beaucoup d'arguments sur le travail interdisciplinaire et justement sur la complémentarité entre les différentes disciplines. Donc ça a fait sens, c'est un dépôt qui a été fait. Quoi. Voilà, c'est 4 mois pour rédiger 200 pages. On a beaucoup travaillé avec l'équipe des vice-présidents en place. On a aussi on a fait des groupes de travail avec des enseignants-chercheurs. L'une des... on va dire faiblesse peut-être de notre projet sur le départ, c'est de ne pas avoir eu le temps d'inclure les étudiants dans la réflexion de projet. Et par contre, comme je le disais, vu que c'est un projet à 10 ans, ça se construit au jour le jour. Il y a des groupes de travail qui se montent de temps en temps. On essaye d'inclure de plus en plus les étudiants avec nous. Aujourd'hui, il devait y avoir la VP étudiante avec moi pour parler du projet. Malheureusement, petit virus hivernal oblige, elle est coincée à la maison. Mais Maëlle aurait dû être là pour parler du projet, parce que plus ça va aller et plus on va inclure les étudiants dans la dynamique.
Donc le but à long terme, c'est de faire une sorte d'université européenne. Est-ce que ça veut dire que les étudiants pourront faire, par exemple, une année dans un campus, donc imaginons à l'UBO, et d'autres années dans d'autres campus, donc en Allemagne, en Espagne, de manière beaucoup plus libre et moins complexe qu'actuellement ?
C'est vraiment l'ambition, elle est là. Hein. Pour le moment, chaque étudiant a le droit, au cours de son cursus, de faire 24 mois dans une université européenne. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse augmenter ça et qu'il y ait une facilité qui soit mise en œuvre avec ces universités partenaires pour que la reconnaissance de diplôme soit faite automatiquement, que la reconnaissance des formations et du contenu des formations soit facilitée, pour que la recherche d'hébergement soit facilitée. Et on est en train de développer une application justement pour faire en sorte que les étudiants qui ont envie de se projeter dans cette mobilité puissent avoir accès à une communauté virtuelle d'étudiants pour chatter, pour échanger, que ce soit sur les langues, sur les facilités d'hébergement, sur comment ça se passe dans tel campus. Vraiment, l'idée, c'est d'être facilitant et de faire en sorte qu'un étudiant qui a envie de partir en mobilité se retrouve dans un écosystème voilà, où tout est facilité et que ce soit plus simple.
Bon, d'ailleurs, l'application, on en a parlé mardi, donc pour ceux qui voudraient en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de Radio U pour écouter le podcast. Autre question, est-ce que pour vous, ce projet, c'est un moyen de développer le multilinguisme ?
Il y a dans l'appel à projet, il y avait une exigence, c'est de se dire, effectivement, souvent, la langue des mobilités, ça reste l'anglais, alors qu'en fait, si on parle d'identité européenne et de différents pays. L'idée avec ces 6 pays autour de la carte, c'est vraiment d'inciter les étudiants, quand ils partent en mobilité en Pologne, d'apprendre le polonais. Alors, c'est pas forcément de devenir bilingue du jour au lendemain, mais au moins d'apprendre les mots du quotidien. Quand on part en mobilité Erasmus, on a des facilités de cours en ligne. Et dans le cadre de cette alliance, on essaye de renforcer en plus avec des cours en présentiel, soit avant la mobilité, soit pendant la mobilité, pour faire en sorte effectivement qu'il y ait une vraie ouverture culturelle sur qu'est-ce que c'est apprendre une autre langue.
Et justement, est-ce que de ce fait, l'offre de langues disponibles à l'UBO sera plus grande et plus complète? Donc, à quelle langue, justement, des universités partenaires, donc le polonais, le croate?
L'idée, elle est là derrière. Donc, c'est pas encore le cas cette année, parce qu'on avait essayé de recruter un lecteur ou polonais ou croate, mais il y a pas grand monde qui a voulu venir. Bon, je pense que le contexte de l'année n'a pas aidé non plus à donner envie aux gens de bouger à travers l'Europe. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'effectivement, on puisse développer des offres de formation sur ces langues de façon privilégiée. Et plus il y aura des étudiants qui voudront aller en Pologne, et plus ce sera facile de justifier le fait qu'on va avoir des heures de cours de polonais.
Et avant de continuer, on écoute Mountains de Parade.
We'll be right back.
Vous êtes sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites et c'était Moochains de Parade. On est toujours avec Delphine Mutz pour parler de See You. Est-ce que c'est un projet qui changera la vie de tous les étudiants sur le campus ou seulement la vie de ceux qui souhaitent partir en Erasmus?
Ah bah, l'ambition, c'est vraiment là, c'est de toucher tous les étudiants, et je vais même aller plus loin, ça veut aussi pour l'ambition de toucher tous les personnels. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que l'Europe rentre sur le campus et pas juste que les étudiants qui ont envie de partir en mobilité se sentent concernés. C'est pour ça que je disais, bah, l'idée, c'est d'avoir des profs invités, le développement des cours en virtuel, c'est vraiment fait pour ça. C'est de se dire, bah, tout le monde n'aura pas l'opportunité ou pour des raisons diverses et variées. On essaye de travailler sur ces raisons diverses et variées, la peur de la langue, les situations de famille qui sont un peu plus compliquées, de prendre ça en considération. Mais vraiment, c'est de se dire, bah, et peut-être il y a des gens qui n'ont pas envie de bouger, mais si les profs européens viennent jusqu'à Brest, pour voilà, ça déclenchera aussi peut-être des solutions. Donc c'est vraiment l'idée de toucher tous les étudiants. Et on parlait tout à l'heure de développement durable, c'est de se dire aussi, il y a cette dimension-là. Ça, c'est forcément des sujets qui touchent tous les étudiants et toutes les disciplines. Et donc, c'est de faire en sorte que cette dimension-là soit une, quoi, c'est une des identités fortes du projet et ce soit tous les étudiants se sentent concernés par ça, quoi.
Bon, tout à l'heure, vous disiez que les étudiants n'étaient pas encore totalement concernés par ce projet parce que ça prend du temps. Mais qu'est-ce qui justement peut attirer des étudiants dans ce projet ?
Bah, on parlait pendant la pause du concours photo. On essaye de lancer des initiatives, donc des petites initiatives pour que les gens entendent parler du projet. Il y a en ce moment un concours photo qui porte sur le thème de l'homme et la mer. Donc, il est ouvert jusqu'au 25 octobre. Appel à candidature s'il y a des étudiants qui nous écoutent et qui veulent envoyer leurs photos. Il reste encore un peu 10 jours pour le faire. Il y a le premier prix, c'est 100 euros de bon d'achat chez Dialogue. Et après, il y a un prix européen, c'est un pass Interrail. Et voilà, l'idée de ces concours photos ou de ces petites initiatives, c'est que les gens entendent parler du projet et se rendent compte finalement, vu qu'il y aura le même concours photo qui est organisé dans les 6 universités, c'est de se rendre compte qu'aux 4 coins de l'Europe, ou aux 6 coins de l'Europe en l'occurrence, on a à peu près la même connexion au milieu marin, que ça peut forger des identités communes ou très différentes, justement. Et l'idée de ce concours photo, c'est ça, c'est de travailler sur la notion d'identité européenne. Et voilà, on va développer comme ça. On avait fait un quiz sur Instagram, justement, où l'idée, c'était de faire en sorte que les gens puissent se rendre compte, voilà, sur la musique, la gastronomie, voilà, c'est l'identité européenne, c'est un sujet qui est un peu vaste. Et donc, on va essayer de développer comme ça plein de petites actions pour que les étudiants soient concernés et s'intègrent au fur et à mesure des projets.
Et est-ce que vous pensez que c'était un réel besoin, une réelle nécessité de créer un projet comme celui-ci?
Alors, oui, parce que je suis fondamentalement euro-convaincu et persuadé que l'Europe a une valeur ajoutée et que effectivement c'est une dimension qui fait sens. Donc, à partir du moment où je crois en l'Europe et je crois en l'Europe des citoyens effectivement et pas en l'Europe commerciale, donc c'est de se dire si les étudiants ont ce sentiment d'appartenir à une dimension européenne, bah forcément ça fait sens.
Et tout à l'heure, on parlait de développement durable. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des mesures écologiques qui vont être prises, à la fois pendant la construction de ce projet de campus européen, mais aussi une fois le campus vraiment instauré? Et si oui, quelles mesures?
Alors, dans les premières mesures qu'on peut citer, il y a Erasmus Go Green. Donc, effectivement, depuis cette année, Erasmus soutient les étudiants qui préfèrent prendre le train plutôt que l'avion. Donc, ça peut être une... Individuellement, c'est sans doute une petite mesure, mais à l'échelle du nombre d'étudiants qui partent en mobilité tous les ans, bah, c'est pas anodin et c'est un signal fort envoyé par l'Europe de dire, bah, voilà, effectivement, quand on part un an en mobilité, si on prend Kiel, bah, c'est 16 heures de train depuis Brest, c'est un peu loin. De toute façon, quand on habite à Brest et qu'on veut aller prendre le train, c'est toujours un peu loin. Mais c'est de se dire, bah, finalement, sur un an de mobilité, c'est pas grand chose, ça permet de voir des paysages, de se poser la question de pourquoi on part en mobilité et effectivement d'avoir un coût carbone quasiment nul. Et donc, bah, c'est soutenu par Erasmus, donc c'est forcément soutenu par CIO. On a aussi essayé de travailler, bah, donc, vu qu'on parle de mobilité internationale, on a aussi essayé de travailler ou on essaye de travailler sur la mobilité locale. Et on travaille actuellement avec le service du patrimoine pour développer tout ce qui est action vélo et plan vélo et le covoiturage sur le campus. Il y a une initiative qui est portée par la ville de Brest qui s'appelle West Go et sur lesquelles tout le monde peut s'inscrire pour faire du covoiturage, mais on va essayer de développer ça sur le campus pour que effectivement les étudiants se sentent connaissent cet outil et se l'utilisent et développer des places de covoiturage sur les parkings étudiants pour que les étudiants qui viennent à plusieurs aient un accès facilité sur les parkings.
Et quand on parle de développement durable, c'est aussi des questions sociales. Est-ce que justement il y aura des mesures sociales, est-ce qu'il y aura des bourses ou alors tout simplement des possibilités d'entrée dans ces différentes universités sur dossier pour faciliter l'accès à ces universités, donc aux milieux ruraux, aux milieux populaires par exemple?
Alors ça fait partie des grosses ambitions d'Erasmus de plus en plus, de travailler sur l'inclusion des différents publics et de faire en sorte que justement cette mobilité ne soit pas réservée à une classe de privilégiés socioculturellement. Il y a une réflexion, sauf que ça se fait plus sur le long terme. Donc je disais, c'est un projet qui se porte à 10 ans. On a une phase pilote sur 3 ans où on doit faire la preuve qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place entre ces 6 universités. Et donc cette partie plus bourse sociale sera mise en place plutôt sur la deuxième phase du projet. Par contre, sur tout ce qui est donc développement durable et dimension sociale, on essaye déjà de travailler et de soutenir des initiatives qui sont faites dans le cadre de l'équité homme-femme. Il y a des initiatives qui sont faites dans les 6 universités. On essaye de travailler sur comment on peut s'inspirer des initiatives faites chez nos partenaires européens pour les développer sur le campus à Brest et vice-versa.
Et donc, créer un projet de campus européen, cette idée est vraiment bien, je trouve. Mais malgré tout, les campus sont quand même loin les uns des autres. Assez loin quand même. Comment comptez-vous maintenir une certaine cohésion, un certain lien?
Après, je pense que c'est toujours compliqué à dire cette année, mais effectivement, après, une fois qu'il y a une rencontre de personnes et qu'il y a des rencontres de personnes et qu'il y a des vraies affinités, les affinités sont sur le fond et parce qu'on a des valeurs en commun. L'une des premières pierres du projet, ça a été de mettre les 6 présidents d'université autour de la table pour voir si déjà on avait des valeurs en commun. Et donc, effectivement, il y a un document qui s'appelle un mission statement, qui est un peu la colonne vertébrale du projet, on va dire, et dans ce document, on parle quand même d'université ou de société post-croissance, de décroissance, de développement durable. Et donc, à partir du moment où déjà on a ces valeurs en commun, c'est pas une petite ambition. Donc, si on arrive à travailler pendant 5 ans ou 10 ans sur cette ambition-là, il y a des chances ces valeurs qu'on a en commun, c'est quelque chose qui peut nous lier sur du moyen terme assez facilement.
Et enfin, dernière question, selon les pays, il y a quand même des manières de faire cours qui sont assez différentes, que ce soit en termes de technique, en termes de même juste de contenu de cours. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça perturbe les élèves, les étudiants, de passer d'un système à un autre?
Justement, c'est pour moi, c'est toute là la richesse d'aller suivre des enseignements à l'étranger. C'est cette diversité d'approches, c'est la pluralité et la diversité qui fait... qui rend les étudiants un peu flexibles, ça leur permet une ouverture d'esprit, et c'est vraiment, l'ambition elle est là, l'ouverture à l'international, c'est de voir d'autres façons de faire, de s'ouvrir au monde, et c'est ça qui fait la richesse des coopérations européennes et d'Erasmus.
Delphine, merci beaucoup.
Merci
à vous. C'était Delphine Mutz avec nous pour parler du projet de CU, donc construire une université européenne. Et on écoute tout de suite Safety Crash de Tapeworms. Vous êtes sur Radio U dans l'émission C'est vous qui le dites et c'était Safety Crash de Tapeworms. Cette semaine, au lycée Dupuy-de-l'Homme, l'heure était la déconstruction des stéréotypes. Dans ce lycée technologique et professionnel, les filières sont encore assez marquées, filles-garçons. Toute cette semaine, la vie du lycée est rythmée par des projections, débats et spectacles autour de la problématique des inégalités hommes-femmes. Lundi dernier, Laurette est allée voir le spectacle de danse du Hall de la compagnie Moral Soul. Elle a eu l'occasion de discuter avec les élèves, les professeurs et les danseurs. Erwan Assé, le chorégraphe et fondateur de la compagnie, et Suzy Babin, danseuse et interprète, lui ont expliqué leur spectacle.
On va déconstruire les stéréotypes.
Mais ouais. Justement, c'est classe d'une heure de travail.
Lycée du Puy-de-l'Aume, Brest, lundi 12 octobre. Premier jour de la semaine égalité hommes-femmes, déconstruisons les stéréotypes, organisés par les élèves de BTS SP3S, encadrés par leur enseignante Sylvie Bécante.
En juin, on a été contacté par un chef d'établissement, proviseur, Madame Morisson, qui nous a demandé si on avait des projets. Et comme c'est inscrit dans le projet d'établissement l'égalité femmes-hommes, c'est aussi une priorité de l'éducation nationale. Donc je me suis emparée de ce thème et j'avais déjà fait une semaine d'animation autour de l'égalité ici dans cet établissement. Et après, je vais dire que ça correspond également à, un petit peu à la, au profil de ce lycée qui est encore très, très identifié lycée du bâtiment. Et alors que c'est plus la réalité, aujourd'hui, c'est devenu un lycée polyvalent avec un secteur lié au sanitaire et social et un secteur lié au métier du bâtiment. Et si on regarde un petit peu la configuration des locaux, les filles sont évidemment dans le secteur sanitaire et social très, très majoritairement et les garçons plutôt dans le bâtiment. Ensuite, il y a un deuxième constat, il suffit de regarder au moment des récrés. Les garçons sont sur certains endroits et pareil, les filles, plutôt dans les couloirs, on les voit bien moins dans la cour.
Là, ça commence à faire du bruit.
On croit souvent des petites de femmes dans le bâtiment, surtout dans les ateliers, on croit souvent des femmes en bleu de travail, etc. Donc ça montre qu'en fait, il n'y a pas de genre. Tout le monde est accepté et présent dans les filières. Donc certes, il y en a peu, mais on voit qu'il y en a de plus en plus. Donc c'est sympa.
Les danseurs se tournent autour, se jettent des regards, s'apprivoisent.
C'est l'histoire d'une rencontre, un coup de foudre en fait.
Oui.
On trouvait intéressant de partir de regard au départ, de pas forcément d'aller dans la danse tout de suite, dans un jeu un peu théâtral, de rencontre en fait simple. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Eh ben, se développe une danse, se développe un geste, un refus, une envie de parler avec l'autre.
Oui.
Les corps ne font qu'un, évoluent ensemble, dans un même mouvement.
Suivant la proposition de gestuelle que tu donnes, tu intègres des personnes. Si tu vas dans une gestuelle hyper compliquée, tu vas faire fuir les personnes. Du coup, dual, en même temps c'est compliqué, bien sûr, mais parce que c'est compliqué dans l'organisation de l'espace.
Mais le message
est très simple. Et du coup, une personne qui n'aime pas du tout la danse, elle sera forcément... intéressé ou du moins captif, sensible à ce qui va se passer durant ces 26 minutes.
Bah, je trouve ça vachement intéressant parce que bah, en fait on arrive à rentrer à l'intérieur des gens parce que du coup il y a un garçon et une fille, du coup on peut se différencier. Et puis bah j'aime bien l'histoire que ça raconte, puis c'est lent, c'est rapide, ils se cherchent, ils partent et tout. Bah, j'aime bien ce que ça dégage de tout ça. Je pense que les gens ont une mauvaise image du Puy-de-l'Aume par rapport à ce qui s'est passé avant ou même comment est-ce qu'on voit les gens. Et je pense que oui, c'est vachement intéressant de déconstruire ça et de voir du Puy-de-l'Aume d'une autre image, d'un autre œil.
S'accélère, il s'enlace, se repousse, se court après, et se fuit.
T'aimais beaucoup la danse Apache. Ah en oui, fait, c'est juste pour dire, ça nous a beaucoup influencé parce que c'est une danse en fait qui a été faite dans les années 30 où en fait c'est des danses à deux, mais c'est assez violent, mais c'est de la violence, ouais. Comment dire, acrobatique, tout est maîtrisé.
Et partagé entre hommes et
femmes. Entre hommes et femmes, ouais. Complètement à l'égalité. C'est-à-dire que la nana peut vraiment prendre l'homme et le faire voler dans les airs, mais c'est toute une technique qui travaille à deux de danse contact. Et une maîtrise du corps vraiment intense. Et nous, on voulait vraiment aussi effleurer ça, en tout cas.
On est parti de là au début, oui.
Ouais, on cherchait des choses assez. Assez étonnante, quoi, pour. Oui. On n'a pas l'habitude de voir que ce que je disais tout à l'heure, quand on parle de danse à deux, un homme et une femme, on s'attend à ce que l'homme ait la position de l'homme, celui qui porte la femme tout le temps, c'est dans vrai. Quelque chose de délicat. Et là, on se disait, ce serait intéressant que ça devienne, à un moment donné, presque violent, presque, ouais. presque drôle, presque maladroit. On aimerait pousser la jeunesse pas à aimer la danse, mais à être créatif, à être ouvert, à être sensible à des choses, à être fort proposition, oui. à critiquer des choses parce que ça ils ont pas compris, ça les a amenés là.
Oui.
Et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir des dialogues en fait, et pas des choses où, du coup il y a une espèce d'enfermement. Où, voilà, nous c'est ça qu'on aime, même quand les gens n'ont pas aimé, mais qu'il y a un dialogue. Pourquoi on n'a pas aimé ? Ah d'accord.
Parce que c'est le débat d'aujourd'hui, je trouve, la relation vraiment homme-femme, c'est très compliqué. Et je trouve que c'est qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut pas, comment.
Elle est simple. Elle est complexe,
exactement.
Par la société, les codes, les.
Complètement.
Voilà, tout ce qui peut un peu.
Et puis le regard des autres. C'est, enfin, chez c'est, des jeunes, façon, enfin, ça, les adultes, mais chez des jeunes, c'est
la base.
Très, très important, c'est la base.
C'est la base.
Vous êtes sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites. Et c'était le reportage de Laurette Arnoux au lycée du Puy-de-Lôme. C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous laisse maintenant avec la chronique radiophonique L'économie autrement, qui va à la rencontre de personnes qui construisent l'économie de demain, en partenariat avec la CEIS, la saison des expérimentations et innovations solidaires, organisée par Ascoria, une école des métiers du social. Le centre de santé communautaire n'a pas choisi de s'installer dans le quartier du Blône par hasard. Et si le quartier populaire rennais change de visage avec la construction d'un nouveau conservatoire de Rennes, par exemple, ce choix répond surtout à un besoin pour les habitants.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Ok, et ben c'est pas mal ça. Du coup, après, faut inviter les habitants. J'ai fait un événement Facebook, mais ça va pas suffire. Faut envoyer des SMS, des mails, faut relancer.
Le choix du quartier, alors pourquoi le Blône ?
Finalement, chacune dans notre coin, on avait un petit peu des envies de travailler, de monter une structure un petit peu différente. Au moment où nous, on réfléchissait un petit peu à ça, bah, il y avait toute une discussion sur la santé, sur ce quartier. Organisé par la ville de Rennes, par la mairie. Bon, on est venu à ces réunions et en fait on s'est rendu compte que c'est le quartier de Rennes où il y a la densité la plus faible de médecins généralistes mais aussi de professionnels paramédicaux et où il y a quand même beaucoup de besoins et beaucoup de demandes de la part des habitants. Un projet tel qu'on l'imaginait prenait tout son sens sur un quartier comme le Blône.
En fait, ce qui est assez chouette, c'est que les habitants, ce qu'on a rencontré jusque-là, ils sont très ouverts. Enfin, c'est très simple d'échanger. Ils ont beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Ils ont très envie d'être acteur de dans les solutions, enfin dans la recherche de solutions. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de toucher tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont très isolées, qui sont pas, enfin qui sont hors les radars habituels. Et en fait, il va falloir qu'on trouve des moyens de toucher les personnes qui sont plus isolées. Et pour ça, le médiateur en santé qu'on est en train de recruter va permettre d'aller à la rencontre de ces personnes, soit sur la voie publique, soit suite au passage d'un médecin dans une visite à domicile, par exemple. Ben, il va pouvoir aller repasser voir la personne, et quand si le médecin ou la sage-femme ou autre a repéré des problématiques autres que médicales, enfin, ou des choses qui peuvent altérer l'état de santé, et on va pouvoir aller chercher les personnes qui ne vont pas aller parce que il y a X freins qui vont pas venir vers nous. Et pour caricaturer, mais à peine, en fait, c'est ces personnes-là qui ont le plus besoin de nous.
C'est un public invisible, en quelque sorte.
On peut les appeler les invisibles. C'est les personnes soit qui n'osent pas, soit qui n'ont pas les infos, soit qui n'ont pas les codes, entre guillemets, pour qui c'est complexe, en fait. C'est un parcours du combattant, en fait, d'accéder aux soins, d'accéder aux droits. Et l'idée, c'est que, en couplant la santé et le social, en travaillant nous, centre de santé, en lien avec les autres acteurs du quartier, on va pouvoir être ce maillon manquant actuellement sur le quartier, qui va pouvoir fluidifier tout ça et puis donner l'accès à ces personnes dites entre guillemets invisibles ou qui sont éloignées du droit, à leurs droits et puis à un meilleur état de santé général.
Ce reportage a été réalisé par la CorLab. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
Ce qui est génial, c'est que vous pourrez commander des pizzas, des glaces, des apéros et d'autres encore pour mettre l'ambiance pendant vos moments karaoké au Japon.